Le journal de la rédaction vous est présenté par Antoine Mercier. Bonjour Antoine.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. Donald Trump déclenche une nouvelle vague d'indignation à travers l'Amérique en affirmant que la responsabilité des violences de Charlottesville, des responsabilités doivent être recherchées des deux côtés, précision d'Ilan Malka. Dans un instant, commentaire du politologue Soufiane Al-Sabag. Les États-Unis, le Mexique et le Canada entament des négociations sur le traité de libre-échange nord-américain après avoir fait planer la menace d'un retrait pur et simple. Le président américain souhaite maintenant une renégociation rapide dans l'intérêt des trois pays, affirme-t-il. Dossier suivi par Marie-France Abastado. Quelles frontières post-Brexit pour les deux Irlandes? Le gouvernement britannique prône aujourd'hui une délimitation sans infrastructure frontalière physique ni post-frontière. Correspondance de Marina Daras. Près de 2000 représentants de tribus indiennes manifestent aujourd'hui à Brasilia pour défendre leurs droits à la veille d'une décision de la Cour suprême brésilienne qui pourrait limiter la reconnaissance de leur territoire. Précision avec Nadine Epstein. Et puis en France, le débat social reprend doucement autour notamment de la diminution programmée des contrats aidés. Nous entendrons les inquiétudes du député mélenchoniste François Ruffin. Et dans la grande table d'été, Géraldine Mosna-Savoie.
Eh bien, au menu aujourd'hui, de l'art, de la science, etc. Comme l'indique le sous-titre de l'exposition « Le rêve des formes » au Palais de Tokyo jusqu'au 10 septembre, à laquelle nous consacrons notre première partie, mais aussi notre seconde partie, puisque nous partons à la rencontre de l'artiste Neil Belloufa, qui mêle à travers ses installations, vidéos, sculptures et peintures, autant de manières de croiser l'art et la science.
Donald Trump a donc choisi de relancer la polémique sur le drame de Charlottesville dans une conférence de presse depuis la Trump Tower à New York hier. Le président américain a donc renvoyé dos à dos les membres de la droite suprémaciste et les manifestants qui venaient les dénoncer. La responsabilité des violences doit être recherchée des deux côtés, a-t-il notamment déclaré. Des propos qui contrastent avec la déclaration plus solennelle de lundi, c'était à la Maison Blanche, au cours de laquelle il avait dénoncé des violences racistes inacceptables. Il a
Oui, tout est parti donc hier d'une question qui a agacé Donald Trump. Une journaliste l'interroge à propos de l'alt-right, la droite alternative extrême, et le président américain de répondre.
Que dire de la gauche alternative? Ils ont chargé les manifestants. Est-ce qu'ils ont une part de responsabilité, eux? Je pense que oui.
Donald Trump va même plus loin que ça.
Il y avait des gens très mauvais, mais il y en avait aussi d'autres qui étaient des gens très bien dans les deux groupes. Je ne parle pas des néo-nazis et des suprémacistes blancs, mais il y avait des manifestants qui n'étaient ni l'un ni l'autre.
Il veut dire que certains manifestants étaient là simplement pour s'opposer au déplacement de la statue du général Lee. Il considère donc que l'on peut être quelqu'un de très bien tout en manifestant ouvertement avec des suprémacistes et des nazis sans être l'un d'entre eux. Évidemment, cela fait réagir.
Ouais, et si le but était de rallumer la polémique, effectivement, on peut dire que le but est atteint.
Oui, le tollé retentit même dans le propre camp de Donald Trump. Accuser les deux côtés après Charlottesville, non, déclare notamment Ileana Ross-Lehtinen, représentante républicaine de Floride. Pour le commandant des Marines, Robert Neller, pas de place pour la haine raciale ou pour l'extrémisme. Beaucoup de grands patrons choqués continuent les uns après les autres à quitter le Conseil pour l'industrie américaine, qui est un cercle de conseillers du président. Scott Paul, président de l'Alliance pour l'industrie américaine, en a encore claqué la porte il y a quelques heures. Si l'on veut trouver des défenseurs des propos de Donald Trump, il faut se tourner du côté du Ku Klux Klan. David Duke, ancien chef du mouvement, remercie le président pour son honnêteté et pour son courage.
Ilan Malka, on est en ligne maintenant avec le politologue Soufiane Al-Sabag. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Comment expliquer que M. Trump choisisse ainsi de relancer cette polémique? Est-ce qu'il y a une nécessité politique pour lui de ne pas abandonner sa posture transgressive, ou est-ce qu'il y a de réelles accointances entre le président et les suprémacistes?
Écoutez, je pense que la réponse est oui aux deux questions. Premièrement, oui, il y a des réelles accointances entre Trump et le mouvement anarcho-conservateur, puisque tout passe au fond par Steve Bannon, qui est son premier conseiller à la Maison-Blanche. Deuxième point, on le voit, Trump, il a réagi à chaud à une question d'une journaliste qui l'a énervé, et donc cette sortie, elle n'est pas tout à fait prévue. C'est vraiment, là, vous avez Trump qui est, je dirais, off the record, c'est ce qu'il pense vraiment de la question qui se pose actuellement via le débat de Charlottesville. Donc voilà, je dirais que c'est quelque chose qui n'est absolument pas étonnant quand on connaît le caractère très sanguin de Donald Trump.
Oui, ce qui est assez surprenant vu d'ici, c'est quand même ce retour aussi de l'ambiance de la guerre de sécession dans le débat américain.
Oui, mais Vous avez un pays qui est, je crois, totalement divisé, et c'est un petit peu une martingale de le dire, puisque tous les 4 ans, à chaque élection, on le répète, mais c'est extrêmement impressionnant de voir que vous avez vraiment aujourd'hui 2 Amériques qui s'opposent, et qui s'opposent de plus en plus, c'est-à-dire que vous avez à gauche des personnes qui veulent plus de progrès, qui voient le monde bouger, qui veulent que les États-Unis, je dirais, continuent leur leadership comme ils l'ont toujours fait en pensant au futur. Et vous avez de l'autre côté une Amérique qui est extrêmement conservatrice, qui en revient à des questions qui sont réglées depuis déjà des décennies, comme celle effectivement de la domination blanche sur les Noirs. Et donc ça aboutit aujourd'hui à une situation qui est tout à fait ubuesque, où le président des États-Unis, élu en partie grâce aux voix de ces gens-là, eh bien, se trouve obligé de les défendre à moitié, même s'il essaye, voilà, de garder un pied de chaque côté. Mais c'est tout à fait impossible, puisque cette question n'appelle strictement aucune défense possible de la part des protestants qui étaient présents à Charlottesville.
Ubuesque et potentiellement dangereux, selon vous, sur le plan de la paix sociale, même civile ?
Bien sûr, parce qu'on le sait, hein, je dirais que chaque mot qui n'est pas prononcé par Trump contre les mouvements suprémacistes blancs, au fond, c'est de l'eau qui est ajoutée à leur moulin, puisque on relégitimise en quelque sorte ce mouvement qui, encore une fois, est présent jusqu'aux plus hautes sphères de la Maison Blanche, notamment via le conseiller Steve Bannon, qui dirige effectivement de loin des réseaux qui de facto peuvent parler directement à l'oreille du président des États-Unis. Donc c'est une situation tout à fait gravissime qui, dans les mois à venir, peuvent effectivement nous permettre d'envisager le pire si la situation continue.
Soufiane Al-Sabag, merci beaucoup d'avoir accepté d'être en ligne avec nous. On parle maintenant des vertus et des limites du libre-échange, toujours en Amérique du Nord, puisque ce sont les représentants des États-Unis, du Mexique et du Canada qui se retrouvent aujourd'hui à Washington pour entamer la renégociation de l'ALENA, l'accord nord-américain entré en vigueur en 1994, qui définit donc une vaste zone de libre-échange de 478 millions d'habitants. Après avoir fait planer la menace de se retirer purement et simplement de cet accord, le président américain a finalement opté pour sa renégociation, qu'il souhaite rapide et dans l'intérêt des 3 pays, selon son expression. Il faut dire que, selon l'ALENA, il y a près de 40 millions d'emplois qui auraient été générés en 15 ans par ce traité, dont 25 millions aux États-Unis. Marie-France Abastado, bonjour.
Bonjour.
Alors, avant d'examiner l'enjeu peut-être de ces négociations qui commencent aujourd'hui à Washington, peut-être faire un bilan de l'ALENA qui est en place depuis plus de 20 ans maintenant.
Eh bien, l'objectif principal de l'ALENA, c'était d'accroître le commerce entre les 3 partenaires, et de ce point de vue, on peut dire que le pari est réussi. Les échanges commerciaux ont triplé en un peu plus de 20 ans et ont atteint la somme de 1320 milliards de dollars. Par contre, dans la relation États-Unis-Mexique, cette croissance des échanges a davantage favorisé le Mexique, et la balance commerciale, qui était excédentaire pour les États-Unis avant l'entrée en vigueur de l'accord, est devenue largement déficitaire. Mais cet impact varie énormément selon les secteurs. Le secteur industriel américain a énormément souffert de la délocalisation des industries vers le Mexique. Vous parliez à l'instant, Antoine, de création de millions d'emplois, mais beaucoup d'autres se sont perdus. C'est d'ailleurs en grande partie à cette population de la fameuse Rust Belt, les États donc dévitalisés autour des Grands Lacs, que Donald Trump s'adressait pendant la campagne électorale quand il menaçait de déchirer l'accord. Mais est-ce vraiment l'ALENA qui est responsable des pertes d'emplois du secteur manufacturier? Les experts n'en sont pas si sûrs. Même dans le secteur automobile, qu'on considère généralement comme le plus durement touché par les délocalisations. En revanche, le secteur agricole américain a plutôt bénéficié de l'ALENA en gagnant 2 marchés, canadiens et mexicains, pour vendre ses produits. D'ailleurs, les producteurs céréaliers s'inquiètent des déclarations incendiaires du président au sujet de l'accord.
Alors, face à ce bilan, dans quelles conditions, dans quelles circonstances s'engagent ces discussions de Washington, et quel est surtout l'enjeu principal?
Pour les États-Unis, l'industrie automobile sera au cœur des négociations. Donald Trump a déjà menacé le Mexique de frapper ses produits d'une taxe de 20 à 30. Le ministre mexicain de l'économie, de son côté, a répondu qu'il quitterait la table de négociation si c'était là la base de la discussion. Avec le Canada, les contentieux sont nombreux, entre autres au sujet de son système de gestion de l'offre dans les secteurs du lait et de la volaille. Mais peut-être plus important encore, le Canada réclame que soit maintenu le mécanisme de règlement des différends que Washington souhaite modifier. Il faut dire que les décisions prises en vertu de ce mécanisme sont souvent défavorables aux États-Unis. Enfin, le Mexique souhaite le maintien de la libre circulation des biens et services et une meilleure intégration du marché du travail.
Marie-France Sabastado, merci. C'est l'une des questions sans doute les plus difficiles pour les négociations qui se sont ouvertes sur le Brexit. Le rétablissement d'une frontière physique entre le Royaume-Uni, la République d'Irlande, qui est membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, qui, elle, fait partie du Royaume-Uni. Dans un document publié ce matin, le gouvernement britannique prône une délimitation, je cite, « sans infrastructure frontalière physique ni poste frontière ». Il affirme que l'établissement d'une telle frontière invisible serait possible dans le cadre de propositions soumises hier en matière d'accords douaniers entre l'Union européenne et l'Angleterre. Marina Daras, bonjour.
Bonjour.
Les Britanniques restent en fait dans leur logique, on le voit bien, d'une rupture sans conséquence, sans que ça se voie finalement. Est-ce que c'est réaliste ?
Ce serait effectivement réalisable si le Royaume-Uni et Bruxelles s'entendaient tous deux sur un partenariat douanier qui permettrait la libre circulation des marchandises et qui, de ce fait, rendrait la frontière entre le Royaume-Uni et l'Irlande complètement inutile. C'est l'une des deux options qui avait été présentée hier par le gouvernement pour une nouvelle union douanière. La deuxième option, c'est d'avoir des arrangements douaniers qui pourraient inclure notamment la suppression de déclarations d'entrée et de sortie des biens avec des accords commerciaux spécifiques, mais qui seront, eux, négociés un peu plus tard. Là, ce serait certainement plus compliqué, mais le gouvernement veut mettre en place des technologies avancées pour contrôler le flux des marchandises sans pour autant le restreindre.
Abolir les frontières, évidemment, la décision est d'autant plus difficile à prendre entre donc, les deux Irlandes, compte tenu de la situation actuelle dans la partie nord de l'île.
Oui, effectivement, l'Irlande du Nord n'a toujours pas de chef de gouvernement et la situation est quelque peu tendue entre Londres et Belfast en ce moment. Bruxelles et le gouvernement irlandais ne veulent surtout pas mettre en péril le processus de paix en imposant une frontière fermée, mais cela serait pourtant nécessaire pour empêcher la contrebande. Une frontière dure pourrait fragiliser l'accord de paix de 98 qui avait mis fin aux violences entre protestants et catholiques nationalistes irlandais.
Marina Daras, merci beaucoup en direct de Londres. Hier, en tout cas, les responsables européens avaient accueilli avec scepticisme ces propositions de Londres en matière douanière. La Commission estime que la Grande-Bretagne ne doit pas s'attendre à bénéficier, après le Brexit, des mêmes avantages que ceux procurés par une appartenance à l'Union. Il y a près de 2000 représentants de tribus indiennes qui sont venus de tout le Brésil et qui se retrouvent aujourd'hui donc dans la capitale, Brasilia, une manifestation pour défendre leurs droits à la veille d'une décision importante de la Cour suprême qui pourrait limiter la reconnaissance de leur territoire. La principale controverse est liée à la thèse du seuil temporel selon laquelle les autochtones pourraient revendiquer uniquement des territoires, les territoires qu'ils occupaient au moment de l'adoption de la nouvelle constitution en 88, constitution qui garantissait pour la première fois aux Indiens le droit d'obtenir cette reconnaissance sur leurs terres ancestrales. Nadine Epstein.
Et cette bataille des tribus indiennes du Brésil n'est pas neuve. Plus de 200 tribus défendent leurs terres depuis les conquistateurs portugais, les colons français, les chercheurs d'or et autres convoiteurs. Depuis le putsch du conservateur Michel Temer, la droite et les partis des grands propriétaires ont relancé leur mainmise sur les terres indigènes. Les grands propriétaires terriens et les multinationales chassent manu militari les Indiens de leurs terres et les Indiens organisent leur résistance pour exiger la reconnaissance du droit à leurs terres. Leurs terres, c'est environ 12% du Brésil, principalement en Amazonie, et aujourd'hui, la Cour suprême à Brasilia pourrait décider de limiter les territoires indiens en s'appuyant sur une interprétation de la Constitution de 1988 et se prononcer en défaveur des autochtones. Au retour du régime démocratique, la nouvelle Constitution accordait aux Indiens des garanties sur la reconnaissance de leur culture et leurs terres. Elle déterminait des territoires qui leur seraient propres. Mais les politiques de développement du pays ont freiné le processus. Les constructions d'infrastructures, de transports et de grands barrages ont empiété sur les terres indigènes. Et surtout, l'agrobusiness, les monocultures de canne à sucre, de maïs, d'eucalyptus sont avides d'espace, tout comme les ressources minières et forestières sont convoitées. La violence n'a pas cessé de s'aggraver. Depuis près de 15 ans, au moins 900 Indiens ont été assassinés. Et en avril dernier, des milliers d'Indiens s'étaient rassemblés à Brasilia pour protester contre le gouvernement du président président Michel Temer. Ils avaient déposé des cercueils symbolisant les ethnies indiennes disparues. La manifestation s'était transformée en affrontement avec la police qui avait utilisé des gaz lacrymogènes pour disperser les Indiens.
Merci Nadine Epstein. Un petit mot de politique française en suspens pendant cette trêve du 15 août. Mais la rentrée sociale revient déjà dans l'actualité, en particulier la perspective d'une réduction des contrats aidés. Le député de la France Insoumise, François Ruffin, s'inquiète ce matin d'une telle diminution. Il rappelle que ces emplois représentent des centaines de milliers d'emplois pour des gens qui parfois accèdent difficilement précisément à l'emploi. Dans une interview au Figaro, le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb annonce que le rétablissement d'une police de proximité promis par Emmanuel Macron pendant la campagne sera effectif dès la fin de l'année. Et puis le photographe de presse qui a fait l'objet d'une plainte d'Emmanuel Macron pour harcèlement, tentative d'atteinte à la vie privée, nie ce matin s'être introduit dans le lieu de vacances d'été du président. À aucun moment, il n'est stipulé, dit-il dans le procès-verbal, que je me suis introduit dans cette propriété. Un temps globalement nuageux, des averses sur les reliefs cet après-midi, des températures de 20 à 24 degrés en Bretagne, 24 à 29 ailleurs, jusqu'à 28, 35 degrés en Provence et en Corse. Édition réalisée avec Yacine Bouzard. Le prochain journal est à 18h.